Lizzie présente Innocent. De Harlan Coben. Lu par Jean-Alain Velardo. À la mémoire de Stephen Z. Miller. À ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'être ses amis, nous tâchons d'être reconnaissants pour le temps qui nous a été imparti, mais c'est drôlement dur. Et à la famille de Steve, en particulier Jesse, Maya T. et Nico. Quand nous en aurons la force, nous parlerons de votre père car c'était le meilleur des hommes que nous ayons jamais connus. Prologue. Vous n'avez jamais eu l'intention de le tuer. Votre nom est Matt Hunter. Vous avez 20 ans. Vous avez grandi dans une banlieue résidentielle du New Jersey, non loin de Manhattan. Votre quartier ne paie pas de mine, mais la ville elle-même est relativement riche. Vos parents travaillent dur et vous aiment inconditionnellement. Vous êtes leur deuxième enfant. Vous avez un grand frère que vous idolâtrez et une petite sœur que vous supportez. Comme tous les gosses du voisinage, vous vous faites du souci pour votre avenir et vous interrogez sur l'université qui va vous accepter. Vous vous appliquez, vos notes sont bonnes, mais pas extraordinaires. Vous avez une moyenne de A-. Vous n'êtes pas dans les 10 premiers, mais de peu. Vous avez d'honnêtes activités parascolaires. Entre autres, vous exercez la fonction de trésorier du lycée. Vous faites partie à la fois de l'équipe de foot et de celle de basket. Vous êtes assez fort pour jouer en troisième division, mais pas suffisamment pour décrocher une bourse. Vous avez légèrement tendance à la ramener et vous ne manquez pas de charme. En termes de popularité, vous vous classez juste après le peloton de tête. Quand vous vous présentez aux tests de sélection qui vont décider de votre cursus universitaire, votre conseiller d'orientation est surpris par vos bons résultats. Vous visez l'Ivy League, mais à vrai dire, vous ne faites pas le poids. Harvard et Yale vous refusent tout net. Penn et Columbia vous placent sur liste d'attente. Pour finir, vous entrez à Bodwin, un petit établissement sélect de Brunswick, dans le Maine. Vous vous y sentez bien, les classes sont petites, vous vous faites des amis. Vous n'avez pas de copine attitrée, sans doute parce que vous n'en voulez pas. En deuxième année, vous intégrez l'équipe de foot en tant qu'arrière. En troisième, vous commencez le basket. Et maintenant que leur joueur vedette a terminé ses études, vous avez de grandes chances de gagner de précieuses minutes de temps de jeu. C'est là, en revenant sur le campus, entre le premier et le deuxième semestre de cette troisième année de fac, que vous tuez quelqu'un. Vous passez des vacances délicieusement mouvementées dans votre famille, mais il y a l'entraînement de basket. Vous embrassez donc papa et maman et repartez avec votre meilleur copain et camarade de chambre, Duff. Duff vient de Westchester, dans l'État de New York. Il est trapu, avec des jambes comme des poteaux. Plaqueur droit dans l'équipe de foot, il joue les remplaçants dans celle de basket. C'est le plus gros buveur de tout le campus. Il n'a jamais perdu un seul concours de bière. Vous conduisez. Duff veut s'arrêter à l'université du Massachusetts, à Amherst. C'est sur le chemin. Un de ses vieux copains de lycée y fait partie d'une confrérie de ouf. Et il donne une méga fête. Vous n'êtes pas très emballé. Seulement, vous n'êtes pas du style rabat-joie. Vous vous sentez plus à l'aise en petit comité, dans les réunions où vous connaissez tout le monde. Bodwin compte environ 1600 étudiants. Amherst, 40 000. En ce début de janvier, il fait un froid de canard. Le sol est couvert de neige. En entrant dans la maison de la confrérie, vous pouvez voir votre haleine. Duff et vous jetez vos manteaux sur la pile. Ce geste nonchalant, vous aurez souvent l'occasion d'y repenser dans les années à venir. Si seulement vous aviez gardé votre manteau, si vous l'aviez laissé dans la voiture, si vous l'aviez posé ailleurs. Mais ça n'a pas été le cas. La fête est sympa, l'ambiance est chaude. Pourtant, il y a là quelque chose d'un peu forcé. L'ami de Duff veut que vous passiez ensemble la nuit dans sa chambre. Vous acquiescez. Vous picolez pas mal, C'est une soirée entre étudiants, non? Mais certainement pas autant que d'œufs. La fête tire à sa fin. À un moment donné, vous allez chercher vos manteaux. Duff a une bière à la main. Il attrape son manteau et le met par-dessus son épaule. C'est là qu'il renverse un peu de bière. Pas beaucoup. Juste une éclaboussure. Ça suffit. La bière atterrit sur un coupe-vent rouge. C'est l'une des choses dont vous vous souvenez. Dehors, il gèle à pierre fendre, et pourtant quelqu'un est venu avec un simple coupe-vent. Une autre chose qui continuera à vous obséder, c'est qu'un coupe-vent est imperméable. Quelques gouttes de bière risquent difficilement de l'abîmer. Ça ne tache pas la bière, il suffit de rincer un petit coup. Cependant, quelqu'un hurle. Hey! Le propriétaire du coupe-vent rouge est un type baraqué sans être un colosse. Duff hausse les épaules, sans s'excuser. Le gars, Monsieur Coupe-Vent Rouge, lui en colle une. Erreur, car vous savez que Duff a la détente rapide. Dans chaque établissement scolaire, il y a un Duff, celui qu'on n'imagine pas perdre une bagarre. C'est bien tout le problème. Dans chaque établissement scolaire, il y a un Duff, et il arrive que votre Duff à vous tombe sur leur Duff à eux. Vous tentez de vous interposer, de calmer le jeu, mais vous avez affaire à deux excités, imbibés de bibine, qui rougissent et serrent les poings. Un défi est lancé. Vous ne vous rappelez plus qui a fait ça. Tout le monde sort dans la nuit glacée et vous réalisez que vous êtes dans un sacré pétrin. Le gaillard au coupe-vent rouge est avec des potes. Ils sont 8 ou 9. Vous et Duff êtes seuls. Vous cherchez des yeux le copain de lycée de Duff. Marc ou Mike, vous ne savez plus. Il n'est pas là. La bagarre démarre aussitôt. Tête baissée à la façon d'un taureau, Duff fonce sur Coupe-Vent Rouge. Ce dernier s'écarte et le cravate. Il le frappe au visage. Sans lâcher prise, il cogne à nouveau, puis encore et encore. La tête en bas, Duff s'agite frénétiquement sans succès. Au bout du 7e ou 8e coup, il cesse de s'agiter. Les amis de Coupe-Vent Rouge l'acclament. Duff laisse retomber ses bras. Vous voulez arrêter ça. Seulement, vous ne savez pas comment faire. Coupe-Vent Rouge s'acquitte de sa tâche méthodiquement, en prenant son temps, avec de grosses vannes en prime. Ses copains l'encouragent. Des « oh » et des « ah » saluent chaque torgnole. Vous êtes terrorisé. Votre ami se fait tabasser. Pourtant, c'est votre propre sort qui vous inquiète. Ça vous mortifie. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez peur. Très peur. Vous êtes incapable de bouger. Vous avez les jambes en coton, des fourmis dans les bras, et vous vous en voulez à mort. Coupe-Vent Rouge balance un nouveau coup de poing à Duff en pleine figure, puis desserre son étreinte. Duff s'écroule comme un paquet de linge sale. Coupe-Vent Rouge le frappe du pied dans les côtes. Vous êtes le plus nul des amis. Vous avez trop peur pour intervenir. Jamais vous n'oublierez ce sentiment-là, la lâcheté. C'est pire qu'un passage à tabac, pensez-vous. Votre silence, cette horrible impression de déshonneur. Un autre coup de pied. Duff grogne et roule sur le dos. Son visage est maculé de rouge. Vous apprendrez plus tard que ses blessures étaient sans gravité. Deux yeux au beurre noir et de nombreux bleus, ce sera à peu près tout. Mais pour le moment, il a l'air mal en point. Lui, jamais il ne serait resté les bras ballants à vous regarder vous faire massacrer. Vous n'en pouvez plus. Vous émergez de la foule. Toutes les têtes se tournent vers vous. L'espace d'un instant, personne ne bouge, personne ne parle. Coupe-Vent Rouge halète. Vous voyez son haleine dans le froid. Vous tremblez. Vous essayez de le raisonner. Ça va, dites-vous. Il a eu sa dose. Vous écartez les bras et le gratifiez d'un sourire charmeur. Il a perdu, c'est fini. T'as gagné, dites-vous à Coupe-Vent Rouge. Quelqu'un vous saute dessus par derrière. Des bras se referment autour de vous, se resserrent, vous êtes pris au piège.